Mon travail a débuté uniquement l'année dernière, à partir de la rentrée 2008, donc je tiens à préciser, et c'est pour ça que je me suis penchée sur les plans, enfin tout ce qui est relatif à la formation de formateurs dans les UFM, donc depuis l'année dernière uniquement. Mon travail a débuté dans un contexte que je caractériserais d'un peu délicat, parce que cette année, enfin l'année passée a été perturbée par les changements donc dans la formation initiale des enseignants et dans les concours de recrutement. Voilà, je vais essayer d'ajuster. Malgré ce contexte, donc j'ai recueilli des données de différentes natures, et donc je vais vous présenter les grands axes, enfin les grandes lignes de l'analyse que j'ai pu en faire. Donc d'un point de vue méthodologique, j'ai fait en sorte de croiser des données issues de plans, des catalogues de formation que j'ai trouvés d'une part sur les sites des IUFM, et pour les IUFM qui étaient déjà intégrés dans les universités, donc dont l'intégration, j'allais dire, était engagée et réalisée. Ce travail a été facilité parce que sur le même site, j'avais les informations pertinentes. C'est vrai que j'ai été plus en difficulté lorsque les IUFM étaient en cours d'intégration, parce que j'ai eu du mal à contacter les personnes qui avaient en charge la formation des formateurs, parce que c'était en changement, tout déménagement. Il y a quelques conséquences que j'ai pu noter. Donc, je disais que je suis donc allée chercher les catalogues de formation sur les sites UFM. Ça a été ma première source d'information. Et ensuite, par des échanges, d'une part par mail, et ensuite enrichi d'entretiens téléphoniques, j'ai pu avoir des informations auprès des personnes qui avaient en charge ce dossier. Je suis aussi allée rencontrer dans le cadre d'une réunion de pôle dont l'objet était la formation des formateurs. J'ai pu rencontrer les personnes des différentes UFM de ce pôle. Et j'ai complété ces informations grâce à des échanges avec les formateurs UFM qui sont enseignants associés au service formation. Alors j'ai essayé de croiser des informations factuelles avec les résultats de mes entretiens pour essayer de mieux comprendre le processus d'élaboration, enfin la politique et le processus d'élaboration de ces catalogues. Ces catalogues, les catalogues sont présentés de façon très diverse. Donc, les entretiens que j'ai pu avoir m'ont éclairé sur le montage de ces catalogues. À l'intérieur de ces catalogues, je me suis penchée sur l'ensemble des actions et qui sont environ, j'ai décompté à peu près 2000 actions. Et afin de pouvoir avoir un point de vue quantitatif et avoir une vision d'ensemble, je me suis appuyée sur une unité temporelle qui est la journée de formation, équivalent à 6 heures, sinon 3 plus 3. Donc ce procédé m'a permis donc d'avoir un capital, une quantité de pouvoir donc annoncer une quantité de journées de formation qui est aux alentours de 3000 journées de formation. Alors j'avoue que l'unité choisie, l'unité temporelle choisie me permet de comparer par exemple une action de formation qui est une conférence programmée sur 3 heures avec une action de formation qui nécessite des réunions mensuelles des différents formateurs sur toute l'année. L'éventail de l'offre s'étale pour certains UFM jusqu'à le nombre de formations va jusqu'à 160 formations proposées au catalogue, ce qui est équivalent à 360 journées de formation pour un institut le plus, celui qui offre le plus d'actions, jusqu'à une vingtaine et qui fait à peu près un peu plus 32, l'équivalent de 38 journées de formation. Voilà. L'offre de formation, ce que j'ai pu constater, c'est que l'offre de formation n'est pas seulement fonction de la taille de l'institut. Je n'ai pas constaté un effet taille, quoi. Voilà. Et ne sachant pas si les actions programmées avaient été réalisées et ne connaissant pas leur taux de fréquentation, je n'ai pas pu utiliser l'unité qui est communément utilisée dans les UFM, la journée stagiaire. Voilà. Donc c'est pour ça que l'état des lieux de l'offre de formation. En ce qui concerne les réponses que j'ai obtenues, excepté quelques établissements éloignés, l'ensemble des UFM ont répondu à ma demande en me transmettant les plans de formation ou en m'indiquant la façon de les obtenir. Quelques instituts n'ont pu m'adresser leur catalogue faute d'avoir pu ou voulu en élaborer un. Mais l'absence formelle d'un catalogue ne signifie pas qu'il n'y a pas de formation, mais moi, je n'ai pas pu le comptabiliser dans le travail que j'ai fait. J'ai donc travaillé sous des formats différents de plans de formation, papier, internet, téléchargeable, et j'ai pu, donc à travers ce travail, donc j'ai pu constater l'analyse de ces catalogues est un excellent indicateur de l'état de mutation dans lequel se trouvent les UFM. L'élaboration des plans de résulte d'un projet ou d'une politique d'institut qui soit qui est le résultat, il m'a semblé percevoir, de deux dynamiques, une dynamique forte, une dynamique universitaire, j'allais dire, qui s'affiche plus ou moins fortement, et d'un autre côté une dynamique, une logique ou une qui vient du rectorat, en lien avec le rectorat. Pour quasiment à part égale, les projets qui sous-tendent ces catalogues, le projet s'appuie sur une logique universitaire, et à part l'autre moitié des catalogues s'appuie sur une logique, j'allais dire, rectorale. Voilà. Autre élément qui contribue à l'élaboration des catalogues, pour beaucoup, la grande majorité d'entre eux, les catalogues sont élaborés sur l'offre de formation des formateurs qui sont dans les instituts. Mais il y a aussi quelques catalogues qui sont élaborés à partir d'enquêtes réalisées auprès du futur public des formations, et ou des besoins identifiés des formateurs. De plus, la gestion de la formation, alors quand je parle de la gestion, c'est tout ce qui est relatif aux procédures d'inscription, à la spécification des publics formés, et l'ingénierie de formation éclaire aussi les relations entretenues avec le rectorat et ou avec l'université. Par exemple, quelques rares plans ou catalogues prévoient des actions de formation auprès de futurs potentiels formateurs identifiés par les inspecteurs de la discipline. Ou encore, le plan académique de formation gère conjointement, enfin le plan, pardon, le catalogue. ce que j'ai étudié. Donc le catalogue le catalogue de formation adressé aux formateurs est inclus dans le plan académique de formation adressé aux enseignants. C'est-à-dire qu'il y a un outil, un plan académique qui comprend à la fois les actions de formation en direction des enseignants et en direction des formateurs. Voilà, ça c'est ce qui est relatif à la gestion de la formation. En termes d'ingénierie de formation, ces catalogues montrent la difficulté de réunir dans une même formation des personnes en poste dans des établissements différents, premier degré, second degré ou enseignement supérieur. Et la volonté d'englober dans un même plan de formation les orientations nationales, le projet académique et les contingences de l'Institut est une gageure. Ainsi, en visant la formation des formateurs qui ont des profils et des expériences très différents, ajoutés à des lieux d'exercice multiples, ces productions sont d'une haute complexité. Alors, je vais vous tracer les grandes lignes donc de cet état des lieux de l'offre. Tout d'abord, ce qu'il ressort d'une façon majeure, c'est que formateur, c'est une profession en construction. Devenir formateur d'enseignant est un métier qui s'apprend. Tous les catalogues font apparaître qu'être formateur nécessite une formation. Cette volonté est affichée dans la lettre d'accompagnement des catalogues, dans environ 3/4 des cas. Elle se concrétise en termes d'action de formation de façon différente selon les IUFM. Alors, cette prise en compte des formateurs novices, des dits nouveaux formateurs, peut prendre la forme d'un accompagnement, d'une aide à la prise de fonction. Alors, aide à la prise de fonction, c'est un intitulé qui revient de façon... c'est un intitulé qui est assez souvent utilisé. Donc, une aide à la prise de fonction est mise en place dans les instituts. Elle peut prendre la forme d'un séminaire, d'une action particulièrement ciblée dans le catalogue ou d'un accompagnement personnalisé. Et dans quelques instituts, cette aide à la prise de fonction peut prendre la forme d'un projet individuel formalisé. On rencontre aussi, et là c'est encore plus rare, une sorte de co-formation, un tutorat entre formateurs, un tutorat de formateurs. Voilà. Être formateur, c'est une profession en construction. Ça se traduit dans le catalogue dans les faits que la formation se fait de façon progressive. Dans l'offre de stage, les stages sont à différents niveaux, sont intitulés niveau 1 ou niveau 2. Les formateurs, ou bien dans certains stages, ne peuvent s'inscrire que les formateurs qui ont suivi le précédent stage, c'est-à-dire le premier s'appelle s'initier à et le suivant s'appelle se perfectionner à. Donc devenir formateur nécessite du temps et de l'expérience. La formation aussi, donc la formation pour devenir formateur nécessite des connaissances de nature hétérogène et complémentaire, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui sont d'ordre disciplinaire, qui sont d'ordre transversal, des savoirs. Il y a aussi des savoir-faire qui sont nécessaires à l'ingénierie de formation. Ça, j'y reviendrai après en termes de quantité d'actions de formation qui sont offertes dans ce cadre-là. La formation de formateur est reconnue. Elle peut être validée par une attestation dans une académie, donc il y a, dans un IUFM, il y a une validation qui se déroule devant un jury et qui débouche sur une attestation d'un diplôme. Voilà. Quelques mots sur les caractéristiques, sur ce qui est relatif aux nouveaux formateurs. Les nouveaux formateurs ou repérés comme allant devenir formateurs, les instituts optent pour différentes formules. Soit en désignant des publics, c'est-à-dire que des actions de formation sont pour des publics désignés et ces personnes ne reçoivent pas de convocation directe. Elles le sont convoquées d'office, j'allais dire. Voilà. Ce processus, cette procédure donc de convocation permet de mettre en acte la politique affichée par l'Institut. C'est le public donc des enseignants, des nouveaux formateurs, pardon. De quelle façon, voilà, les nouveaux formateurs, pardon, je me reprends. Donc, à ces nouveaux formateurs, l'Institut peut octroyer des crédits horaires à la formation. Pour les nouveaux formateurs, ces crédits horaires peuvent aller jusqu'à 20 heures de formation. C'est-à-dire que ces crédits à la formation correspondent à des heures données pour assister aux formateurs, pour assister à des formations. Voilà. D'autre part, la volonté d'accompagner les nouveaux se lie dans le marquage très net des actions de formation à leur intention. Vraisemblablement, il n'est pas possible de passer au travers de ces formations. Alors, je reviens rapidement sur les crédits d'heures qui sont octroyés aux formateurs. Ils ne sont pas octroyés qu'aux nouveaux formateurs. Et c'est une mesure concrète d'une politique d'encouragement à la formation. Elle s'adresse à tous les formateurs et elle est calculée en fonction du statut même du formateur, s'il est recruté à tremplin dans l'UFM ou s'il est à mi-temps ou si c'est un enseignant du secondaire qui vient faire un certain nombre d'heures dans l'UFM. Donc c'est au prorata de son temps de présence dans l'UFM. Voilà. Autre grande ligne, la présentation des actions de formation la présentation des actions de formation est quasi standard, c'est-à-dire que on a le titre, on a les formations qui interviennent, on a le public concerné, les objectifs de la formation, ainsi que le contenu et les modalités de formation. Et ensuite, on a toutes les informations, le dispositif pratique, le nom du responsable de formation, la durée, en nombre de jours, en nombre d'heures, la date, les horaires, etc. Par contre, ce que j'ai pu noter, c'est que l'évaluation de l'action de formation n'est pas incluse dans cette présentation. Très souvent, et dans la moitié des cas des catalogues, il y a une fiche d'évaluation parce qu'il y a un dispositif qui est à côté du catalogue, qui est présenté à côté du catalogue de formation. Et c'est une fiche, j'allais dire, qui est transversale, qui permet d'évaluer toutes les actions de formation. Les modalités de participation aux actions de formation. Les catalogues donc distinguent deux grandes modalités d'inscription aux actions. Il y a des formations réservées à un public désigné. Donc là, j'ai évoqué les publics désignés quand j'ai parlé des nouveaux formateurs, le public désigné n'est pas réservé aux nouveaux formateurs. Il y a environ un sixième des actions qui sont destinées à un public désigné, c'est-à-dire qu'il y a environ 300 actions qui sont en direction d'un public désigné. Ensuite, il y a une autre forme de public. Il y a d'autres formes d'actions de formation qui sont à inscription libre. Et dans, parmi ces inscriptions libres, il y a deux catégories. Il y a un public ciblé, par exemple lorsqu'il s'agit de former des conseillers pédagogiques en SVT, en maths, etc. Le public est ciblé. Ou sinon, il y a d'autres formations qui sont ouvertes à tous les formateurs. J'essaye d'accélérer parce que le temps passe. À côté de ces grandes catégories, il y a quelques catalogues qui proposent de répondre à des demandes d'équipes de formateurs. Donc c'est des demandes locales très ciblées, mais il y en a très peu. Et d'une façon générale, dans tous les catalogues, il y a une proposition. Les instituts offrent la possibilité de s'inscrire dans des colloques ou dans des séminaires à l'extérieur de l'académie. Autre grande ligne, la grande diversité dans l'offre de formation en lien avec les publics visés. La présentation des catalogues de formation décline les actions en grands chapitres, en grands domaines ou en grands titres. Alors, je me suis appuyée sur ces grands domaines que j'ai regroupés pour répondre à la problématique de la journée d'aujourd'hui. Et bon, c'est vrai que la ligne de partage des catégories est toujours fluctuante, mais d'une façon générale, il y a des formations qui vise une actualisation des connaissances ou des savoir-faire. Alors, ça renvoie ça à peu près 70% des actions de formation. Donc, ce sont des formations qui sont centrées sur les contenus disciplinaires, la didactique appliquée à un niveau. Ensuite, il y a des formations qui sont liées à des contenus transversaux, par exemple éducation à la santé, au développement durable. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus, par exemple, l'histoire des arts. Donc, des contenus transversaux, interdisciplinaires, qui sont en lien aussi avec des recommandations institutionnelles, comme par exemple le socle commun. Des formations qui sont aussi en lien avec des publics particuliers d'élèves, comme les élèves handicapés ou des élèves en grande difficulté. Voilà pour quelques exemples. Ensuite, il y a des formations qui sont en lien avec des savoir-faire ou des techniques d'entretien, par exemple, s'initier à l'utilisation de la vidéo, à l'analyse de situations professionnelles, ou construire des outils d'observation, des outils d'évaluation, des outils pour évaluer les écrits professionnels. Ensuite, il y a un grand chapitre aussi de formation en lien avec l'informatique, les TIS, et pour ces formations, et aussi en lien avec le C2I 2E ou les ENT. Des formations qui visent l'enrichissement culturel des formateurs. Toutes ces formations représentent 70% de l'offre de formation. Un autre grand chapitre de formation qui place la professionnalisation du formateur au cœur des contenus et qui interroge vraiment le cœur du métier. Elle représente 20% des actions de formation. Alors, dans ces formations, il y a tout ce qui est en lien avec l'ingénierie de formation et la formation d'adultes. Et il y a toutes les formations qui sont centrées sur l'agir professionnel du formateur, l'analyse de pratiques professionnelles du formateur. Alors, petite précision, je suis quand même allée dans le contenu même des formations je me suis pas contentée de l'intitulé ou le titre de la formation. Je suis allée voir les modalités de déroulement des actions pour élaborer ces catégories. Ah oui, Ce qui est intéressant aussi de remarquer que rares sont les catalogues de formation qui placent ce type de formation en premier lieu et qui placent, dans leur catalogue de formation. C'est souvent situé un peu plus loin après les formations disciplinaires. Ensuite, une grande catégorie d'actions de formation qui sont en lien avec la recherche, qui s'adossent à la recherche et qui prennent différentes formes. Tout d'abord, il y a des conférences ou des conférences débat, alors des conférences qui sont programmées sur 3 heures ou des conférences débat avec des ateliers qui sont programmées sur une année. Voilà, j'ai mis ces actions sous le chapeau formation en lien avec la recherche parce que les conférences correspondent la forme, la conférence et la forme typique de la pédagogie universitaire. Ensuite, il y a des actions de formation alors qui s'apparentent à de la recherche-action, à des groupes de formation, de réflexion de formation qui ont comme visée aussi de produire des ressources. Et il y a toutes les actions de formation qui sont en relation avec l'université. Et donc, c'est celle-ci qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Ce sont toutes les actions de formation qui permettent d'obtenir des modules de master. Alors, ces actions sont présentées de façon différente selon les catalogues, c'est-à-dire que soit il y a une sorte de partenariat entre l'UFM et l'université et il y a simple le master est présenté avec la possibilité de s'inscrire à des modules et dans quelques catalogues les actions de formation sont présentées comme je vous l'ai décrit tout à l'heure avec le responsable de formation et l'enseignant du module de master.
Sabine.
Oui, je finis.
Tu as épuisé ton temps. Tu as encore droit à 2 phrases de conclusion.
2 phrases. Alors, une phrase sur les intervenants les intervenants en formation. Alors, d'une façon quasi générale, ce ne sont les instituts font appel à des personnes ressources de l'académie, les personnes ressources locales, les personnes qui interviennent. Donc, les intervenants dans les actions de formation sont en très large part des formateurs de l'UFM, des enseignants-chercheurs, il y a aussi des inspecteurs et pour des actions très particulières, des personnes extérieures sur des champs très ciblés. Et un dernier mot sur les modalités de formation. C'est l'unanimité au présentiel pendant les formations. J'allais dire, c'est un épiphénomène des formations à distance qui alternent formation à distance, formation en présentiel, sont une infime quantité dans l'ensemble des actions qui sont offertes. Voilà. Donc, pour conclure, c'était simplement pour montrer que se former au métier de formateur, il y a besoin de connaissances très différentes, il y a des connaissances de milieux très différents, il y a des savoir-faire, pour construire des compétences.